don't leave. Soudain la sirène vient et quelqu'un pousse un cri. Y'a des barres dans la tour. Y'a des barres dans la tour. Y'a des barres dans la tour. Café des mecs, ça va saigner. Le morceau commençait à l'aile gauche de la tour. Tous les mecs, mecs, à saccager les pioles. J'ai dit allez les potes, on se paye une petite fête. Là qu'arrivent les lardus avec des mitraillettes. Y'a du basse devant la tôle. Y'a du basse devant la tôle. Y'a du basse devant la tôle. Café des mecs, ça va s'élever.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sûr Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Alors, autour de la table, nous avons Serge.
Salut tout le monde.
Nous avons Guy.
Salut.
Nous avons G et Greg au bocal. Et Sylvia qui vous salue. Avant de vous faire le déroulé de l'émission, je vais laisser la parole à Guy pour une commémoration d'un compagnon qui est décédé ici.
Sur l'émission Palestine, la première émission Palestine ici, quelqu'un qu'on avait croisé au Liban dans les années 80, qui avait émigré et qui est décédé aujourd'hui du Covid. Le paradoxe, c'est qu'évidemment, il ne sera pas rapatrié chez lui. Donc, il n'aura connu que l'exil, le pauvre, après le Liban. C'est un camarade qui a beaucoup travaillé du côté de la résistance palestinienne assez jeune, qui a participé notamment à la défense des camps dans les années 80. Et puis, avec la répression et tout ça, il était obligé de partir. En France, il a une énorme activité, notamment à la radio, mais dans tous les collectifs qui ont soutenu la résistance palestinienne. Voilà, alors on a pas eu le temps beaucoup de discuter de tout ça. C'est tombé cet après-midi un peu brutalement. Et puis, on va faire quelque chose à la rentrée. Je vais vous laisser écouter le son qu'on a enregistré vite fait, parce que c'est la lettre de son meilleur copain ici, José, qui était un reporter en Palestine, qui a fait plusieurs films. On reviendra là-dessus à la rentrée dans le nouveau magazine sur la Palestine qu'on est en train de monter.
Thank you.
notre ami Ziad Barakat l'Ensoleillé nous a quittés, emportés par le Covid. Ziad, palestinien issu des camps de réfugiés au Liban, sera enterré à Lyon à 15h30, où j'aurais voulu tellement l'accompagner. L'État libanais refuse qu'il soit enterré auprès des siens car palestinien. C'était un homme ensoleillé, avec son humanité palestinienne, que j'appréciais beaucoup depuis de nombreuses années. Une anecdote qui raconte beaucoup de lui. À Montreuil, il y a 10 ans, lors de l'occupation du square de la place de la République par le collectif des Sorins, migrants sans papier toujours en lutte, dont je lui avais parlé, il est venu les voir. Il me dit, les yeux pleins de larmes, cela me rappelle trop les camps de réfugiés au Liban d'où je viens, cela m'est insupportable. Je reviens. Il est allé à Gosport et revenu avec 5 tentes. Il a voulu rester anonyme et les Sorins n'ont jamais su qui était cet ange qui avait déposé ses tentes pour les abriter. Il sera enterré avec son kéfier et le drapeau palestinien sur son cercueil. Mes pensées à sa femme si lumineuse, son fils Adel, dont il était si fier et qui le rendait encore plus ensoleillé, et sa mère Ikram. Bon voyage, camarade. Tu étais un symbole de la lutte du peuple palestinien et d'un monde où régnerait la justice et une véritable humanité sans barbarie. Je garderai en mémoire ton sourire et ton indignation permanente. Écrit à 15h15 avec les larmes aux yeux. La radio Fréquence Paris Pluriel s'associe au très juste hommage de José et produira à la rentrée dans son nouveau magazine palestinien un portrait de Ziad Barakat, utopiste et militant aujourd'hui décédé loin de la Palestine et du Liban. Repose en paix, Fedaïn.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Très dur début d'émission et très très compliqué. Mais on va devoir faire le déroulé de l'émission. Alors on va commencer par vous parler des matelas au sol en détention parce qu'on en parle trop peu et qu'il est important de dire que des gens dorment au sol. Ensuite, on aura l'appel d'une compagnonne qui va nous parler de son parcours de proche de prisonnier. On va avoir un appel de Ramata, la sœur de Lamine Dieng, mort assassiné par la police.
Il y a 14 ans déjà.
14 ans. Mmh. Et ensuite, on va faire quelques brèves sur l'actualité. Et de ce qui se passe actuellement. Pour nous appeler, c'est au 01 42 06 75 19 ou au 07 52 40 22 48. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Vous pouvez nous contacter par mail sur l'envolécontact.net. J'ai fait un panache entre le mail et le site. C'est pas mal ou pas? Deux en un. Demandez-moi quand vous savez pas. Et donc on va parler de ces foutus matelas au sol comme si c'était normal de dormir par terre.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait on n'en parle pas toutes les semaines, alors qu'on sait qu'il y a entre 800 et 1000 prisonniers et prisonnières qui dorment tous les soirs sur un matelas au sol.
T'as enlevé la TVA parce que 800 1000 c'est pas beaucoup, hein, pour moi.
Bah, en tout cas, c'est les chiffres qui sortent un peu sur les réseaux et tout. Mais
en tout cas, les 87 000 prisonniers tous les prisonniers qu'il y a en France et toutes ces tôles où il y a la surpopulation carcérale, 1000, c'est pas beaucoup.
Bah, en tout cas, c'est ce qu'ils annoncent après derrière. Qu'il faudrait.
On a 67 000.
C'est un peu comme les manifs, tu sais, quand il y a beaucoup de monde et ils enlèvent en disant que sur les 1 million, il n'y en avait que 3 000. Voilà, c'est un peu pareil. Voilà.
Ouais, c'est ça. Et là, on avait envie d'en reparler parce que, bon, enfin, voilà, parce que à Gradignan, donc la tôle à côté de Bordeaux, il y a un prisonnier qui a été condamné à 5 jours de mitard parce qu'il a refusé de dormir au sol. Voilà. Donc, tout simplement parce que, enfin, voilà, mais il n'y a vraiment rien eu à part juste, il a dit, bah non, en fait, il n'y a pas moyen, je ne dormirai pas au sol. Il venait d'être
mis. Ce qui est totalement son droit puisque c'est totalement illégal.
C'est ça. Et donc ils lui ont foutu 5 jours de mitard. Donc voilà, donc c'est, ça montre bien toute l'ignominie ces putains de matons.
Non, puis dit comme ça, dit comme ça, ça peut paraître tellement bête en disant ouais mais le mec il a refusé, vas-y c'est rien, il dort au sol. Ouais mais ça veut dire que le gars il se retrouve dans une cellule où ils sont minimum 3 et des fois ils sont 4
dans 9 mètres carrés.
Dans 9 mètres carrés, croyez-moi que c'est déjà à 2 c'est étouffant. Alors à 3 où il faut sortir son matelas, c'est-à-dire que ton lit quand tu es en cellule, c'est ton seul coin de tranquillité.
Et ton espace personnel, un peu d'intimité. Voilà. Quoi.
Ça veut dire que lui, son lit, il est sous le. Son matelas, il est placé sous le lit de superposé. Et pour y être et y accéder, il faut qu'il tire. Et que, voilà, ça veut dire que tout le monde, l'autre qui est au-dessus, il saute sur son lit pour pouvoir avoir accès aux toilettes ou, voilà, ou, à faire, ou à boire de l'eau ou à faire son café. Ou, voilà, c'est très compliqué, il n'y a pas de place.
Ouais, et puis ça veut dire aussi qu'il ne peut pas se poser, parce que souvent sur les lits superposés, les mecs, notamment celui qui est en bas, il va avoir un système de draps pour se faire une sorte de micro-chambre, etc. Exact. Avoir son petit endroit un peu cocooning, récupérer un peu de confort. Confort, c'est un grand mot, et d'intimité, voilà, pour cloisonner un peu l'espace. Celui du haut, bah, il est en hauteur, donc du coup, il y a cette forme de décalage un peu aussi dans l'espace. Mais alors, celui qui est au sol, en fait, c'est mort, il a rien, quoi.
Et donc, bah, ça fait écho aussi à un truc qui avait été, c'était le cas il y a 4 ans à la prison de Nanterre.
Où les gars, quand ils rentraient en tôle du quartier d'arrivant, on leur faisait signer un petit papier. Alors, je vais vous lire le papier, prévenu. Donc, c'était soit vous vous entourez, prévenu, condamné. Bon, bref. J'ai été informé de la surpopulation pénale à la maison d'arrêt et accepte de dormir sur un matelas par terre pour mon affection au bâtiment A ou B. Faut savoir que si le gars, il signe ce papier... donc il est fortement possible qu'il dorme sur un matelas à terre, et s'il le fait pas, ben il est condamné à rester au quartier des arrivants, à avoir une promenade de mitard, puisque les promenades au mitard, les promenades au quartier d'arrivants, c'est 20 mètres carrés avec une grille au plafond, enfin en guise de ciel, avec très peu de lumière qui rentre. Et voilà, en fait, t'as pas de promenade, c'est une promenade de mitard. Donc forcément, arrivé à un moment, tu craques, et tu surtout si t'as déjà connu la détention et que tu sais que t'as une promenade normale, voilà. Donc tu signes ce papier et voilà. Et en fait, ça a été fait pour éviter les plaintes pour les conditions de détention inhumaines et dégradantes qui avaient été à l'époque posées par plein d'avocats. Et de prisonniers.
Oui, c'est ça. Puis en plus, ça avait aucune espèce de valeur juridique. Mais ça voulait dire, voilà. C'est, de toute façon, tu pouvais signer
t'acceptais
ça.
Et la voilà. Situation.
Mais c'était un outil que l'administration pénitentiaire utilisait pour te faire flipper en disant, de toute façon, on fait un recours, mais t'as accepté. Donc c'est ton choix. Et voilà. Et donc après, eux derrière, ils utilisaient ça de manière complètement bâtarde, quoi, de dire, non, mais en fait, t'as signé le truc, t'as accepté. Hein, donc voilà. Et je pense que ça fait aussi un peu écho à tout le discours qu'il y a en ce moment depuis la manif des keufs et tout ça, de dire les magistrats, ils incarcèrent pas suffisamment parce que il y a pas de place dans les prisons. Donc c'est un argumentaire qui est de plus en plus repris de la part soit des politiques de manière générale, un peu tous, voilà. Et là, en fait, c'est cette question des matelas au sol et de la surpopulation, du suremprisonnement de la population générale, montre bien que, en fait, les magistrats n'en ont absolument rien à faire, Et donc, c'est pas du tout un sujet, Et on sait très bien que quand on construit des places de prison, on continue à faire du suremprisonnement, comme ça a été le cas à la Santé dès que ça a été ouvert, on en parlait les émissions précédentes.
Cet argument, il sert vraiment, notamment les politiques et tous ceux qui viennent pour râler là, à prétendre, donner une bonne occasion de revendiquer des nouvelles constructions de prisons. Ouais. Dès que ces nouvelles prisons sont construites, assez rapidement, on se retrouve à nouveau dans ce nouveau cas de figure. Et effectivement, ce n'est pas une surpopulation, c'est un surenfermement, un suremprisonnement.
Et c'est l'argument à chaque fois, c'est de dire on va construire des nouvelles prisons pour les humaniser. Mais en fait, à chaque fois, quand ils ont ouvert la prison de la Santé, là, c'est la dernière en Ile-de-France où ça a été le cas, et, ils ont prévu dès le début en fait, le non-insolument individuel. C'était vraiment prévu dès le début. Donc c'est vraiment juste des arguments de façade. Mais concrètement, on sait très bien à quoi ça sert. Mais donc, ils utilisent, au lieu de dire... parce qu'il y a certains politiques qui ont eu cette idée du numerus clausus, par exemple. On n'avait pas le droit d'enfermer plus, il fallait libérer quelqu'un et tout ça.
Numerus clausus, ça veut dire quand même c'est une personne par cellule.
C'était pas nécessairement une personne par cellule, parce que c'était là où le truc était super bâtard. C'était de dire, on considère qu'il y a un certain nombre de places, comme à la Santé, en fait. Il y avait, je sais plus combien de cellules, peut-être 500, mais on disait, il y a 700 prisonniers. Donc ça veut dire que nécessairement, il y avait des places qui étaient, mais il y avait 700 places, mais il y avait que 500 cellules, quoi. Mais il disait. Il y a un quota à pas dépasser. Ouais. Donc ça veut dire que la personne à qui il reste quelques jours. De peine et autres, on l'a fait sortir quelques jours en avance s'il y a quelqu'un d'autre qui revient, si on a dépassé le quota des prisonniers. Ça a été des propositions qui avaient été faites, mais c'était rarement des propositions qui étaient réellement... on sait que le problème, c'est qu'il faut enfermer moins de manière générale et d'arrêter de condamner tout le monde en comparution immédiate et tout.
Mais ça ne les intéresse pas d'enfermer moins. Parce que, comme on le dit souvent ici, c'est que le prisonnier, c'est un réel business en France, en vrai. Ouais. Et je persiste et je signe en disant ça, c'est que la France est extrêmement endettée apparemment, mais malgré ça, ils reconstruisent des prisons qui seront encore surpeuplées. Mais effectivement, un prisonnier travaille pour 120 euros par mois et travaille surtout dans ces ateliers qui sont gérés par des super grosses enseignes, Agatha, les Fraises Tagada, Chanel, Dior, et j'en passe. Bouygues, bien évidemment, Orange. Et effectivement, ils sont payés au compte-gouttes. Ils travaillent à la chaîne, alors que c'est totalement illégal le travail à la chaîne en France, mais en prison... Il n'y a que ça qui prime. Et c'est du même acabit pour le bracelet électronique. Tu casses ton bracelet électronique, tu dois payer 150 euros. Tu es relié à un téléphone. Si ce téléphone il est cassé, tu dois payer 1250 euros. Donc, effectivement, à chaque fois, il y a des sous qui rentrent. Et qu'on me dise oui, mais un prisonnier, ça coûte 80 euros ou 150 euros selon sa forme d'incarcération. Ça me fait bien rigoler parce que je leur renvoie le compliment. Combien vous fait gagner un prisonnier quand il est incarcéré et qu'il travaille pour vous et ces enseignes bien pourrites qui exploitent ces pauvres gens qui sont déjà dans la misère.
Voilà. Et on en parlera d'ailleurs un peu la semaine prochaine puisqu'on va parler un peu de la construction des places de prison dans un enregistrement. Et on rappelle tous les gens qui font du business là-dessus, aussi les architectes et autres. Je crois qu'on a quelqu'un au bout du fil. Allô, allô ?
Salut !
Salut, c'est Katia.
Salut, Katia !
Salut !
Alors, moi, je t'ai présenté comme une... T'as dit quoi ?
Je laisse faire l'entrée en matière.
Ouais. Alors, moi, je t'ai présenté comme une... une vraie pote. Et aussi comme une proche de prisonnier. Qui en discutant longuement avec toi. Je me suis aperçue que tu m'as parlé d'un sujet qu'on traite très peu ici et qui est dans l'incarcération, une forme de destruction pour certaines personnes, en fait.
Et sensible.
Voilà, c'est
des séquelles post-traumatiques.
Exactement. Donc je vais te laisser, commencer et puis je vais surenchérir derrière.
Je te remercie.
C'est bon.
Voilà, je suis le père de mon fils a fait une très très longue peine. Il était gamin et justement j'étais tellement en stress de ne pas être avec lui et de devoir intervenir au téléphone que j'ai juste de raccrocher avec lui. On a vécu longtemps ensemble quand il est sorti. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile à aborder. C'est le sujet de l'intimité quand on fait ses 2 ans en détention. Et quand on s'est installé ensemble, lui et moi, il sortait d'une longue peine. Il était DPS, donc il n'arrêtait pas de changer de détention. Sa grand-mère qui l'élevait est morte quand il y était. Il n'a pas le droit de sortir. De toute façon, il est à l'autre bout de la France par rapport à là où on habite. Il était tout le temps en état.
C'est vrai que quand tu es DPS, le problème du DPS, c'est d'un détenu spécialement surveillé. Donc, il est souvent situé dans des centrales, ces centrales qui sont loin de ces familles qui ont envie de voir leurs proches en détention. Parce que même si, aux yeux de la loi, il est considéré dangereux, pour nous, proches, c'est un père, un mère, un père, une mère, un fils, un compagnon, voilà. Et il est très important d'avoir ce rapprochement familial qui est un droit et qui est complètement lésé. Voilà. Et il faut savoir aussi que quand tu es en détention, que tu as un proche qui décède, là aussi, c'est un droit d'aller voir d'aller à l'enterrement de ton proche et encore un droit bafoué. Alors souvent on t'accepte le déplacement à l'enterrement, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent le matin et qu'ils disent qu'il n'y a pas d'escorte pour t'y amener.
Alors là je confirme tout à fait. On l'a vu encore en plus par rapport au Covid. Du coup on passe du coq à l'âne, mais effectivement tous mes proches, voilà, j'ai 3 proches qui ont fait des longues peines, le père de mon fils, mon conjoint actuel et l'oncle de mon fils qui est décédé récemment. Et aucun des 3 n'a pu sortir pour l'enterrement de sa mère ou de sa grand-mère. Le père de mon fils a été condamné pour braquage, mais il n'a jamais ni tué ni blessé personne. Ils n'ont jamais retrouvé quoi que ce soit. Enfin voilà, les preuves sont... Enfin bref, on ne va pas parler de l'histoire du comment.
De l'histoire en soi.
Et là où je voulais en venir, et je le remercie d'ailleurs s'il m'écoute de m'avoir rappelé, le pourquoi du comment, c'est quand on s'est installé ensemble, cette difficulté d'aller aux toilettes. Mmh. Alors, ça peut paraître complètement basique à quiconque qui n'a jamais été en détention.
Exactement.
Mais voilà, lui, quand il a été condamné aux assises, il s'est tapé les pires taux de France, on ne peut pas dire ça. Elles sont toutes terribles. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il s'est retrouvé avec un problème d'uriner. Impossible d'uriner. Donc, alors déféquer, bizarrement, ça passait, mais uriner, c'était pas possible. Donc, ils ont fait toucher de prostate, enfin bref, ils ont fait des... Mais, et finalement, c'est un psy. Il me semble que c'était à Montpel ou au Beaumet qui lui a dit, mais c'est psychologique, monsieur. Et en sortant, il a toujours eu ce problème, puis en plus, il a été réincarcéré plusieurs fois après. Donc, et même en sortant à la maison, donc il a mis un moment, sinon il allait pisser dehors, il a mis un moment à pouvoir faire pipi chez nous, juste chez nous. Chez mes parents, il ne pouvait pas. Chez nos potes, il ne pouvait pas. Café, resto, il ne pouvait pas. Et je viens de l'avoir au téléphone et il me dit c'est un truc qui m'est resté, effectivement. Alors maintenant, avec les années, ta dernière tête date de 2006. Donc, ça a un petit peu maturé. Et il m'a fait la réflexion aussi que la fiole qu'on donne au DPS, ça aussi, ça a un impact.
C'est quoi que tu appelles la fiole ?
En fait, c'est les médocs.
Oui, d'accord.
Voilà. Ouais. Les médocs qu'on donne, donc forcément, le détenu donne son aval. surtout au DPS.
C'est un joli kick et tout ça, là, c'est ça ?
Oui, absolument. Lui, pense que, alors, lui, il pense que ça a eu un impact.
C'est fort possible.
Sur cette, alors déjà qu'il était en stress, il était tout jeune, il se retrouve dans des taux de ouf. On change tout le temps.
Il faut rappeler qu'il était en détention très jeune. Ça veut dire que 18 ans, si j'ai bonne mémoire.
En fait, je viens de lui demander, il m'a dit qu'il avait entre 19 et 20 ans. Voilà. C'est le seul article de journal que j'ai jeté que je n'ai pas gardé.
Il faut savoir qu'un homme grandit jusqu'à ses 25 ans. Ça veut dire qu'il n'était pas totalement formé, en vrai, quand il a pris ses cachets là. Et est-ce que ça peut avoir effectivement
absolument,
un impact ?
Absolument. Alors, en plus, ce n'est pas que des anxiolytiques. Hein. Il y a aussi des neuroleptiques.
Bien sûr.
À savoir que, par exemple, le Rohypnol, qu'on appelle maintenant le GHB, n'est plus autorisé dans le civil, entre guillemets, mais qu'il est toujours autorisé en détention et en psychiatrie. C'est quelque chose qui détruit le cerveau et qui peut avoir un impact sur le fait d'aller faire ses besoins. Il m'explique aussi que pour se détendre en prison, il fumait des joints et qu'en fait, c'était pire. Voilà, ça le rendait complètement... ça l'était dans un état psychotique et que ça avait encore plus un impact sur sa faculté à uriner. Alors là, je parle en son nom, hein. C'est ce qu'il vient de me confier à l'instant. Et il m'a encore dit, c'est vrai, Katia, c'est la seule qui a remarqué ça, mais parce qu'on a vécu ensemble. Et voilà, mon conjoint actuel, c'est pas tout à fait la même chose. Mais l'oncle de mon fils, qui est mort récemment, effectivement, il avait le même problème. Voilà, uriner, c'était en dehors de chez lui, ou de chez moi, qui était ça le plus proche, c'était impossible d'aller dehors. Et des fois, ça pouvait durer des heures.
Et ça fait un peu écho à ce qu'on parlait en début d'émission, parce qu'on parlait d'avoir un petit espace d'intimité au sein de la cellule, quoi. Et là, c'est ça.
Je pense que pour comprendre.
Est-ce que je peux rebondir ? Excuse-moi.
Vas-y.
Que je rebondis juste sur ce que le poteau vient de dire. Donc, le père de mon fils, justement, il m'a dit un truc, il m'a dit : écoute, Katia, en fait, il y a une cabine ou pas, enfin, pour lui, hein, dans la cellule. Il y avait quand même ce blocage.
C'est ça. C'est que pour comprendre ce que ton ami a vécu, il faut avoir soit été un proche d'incarcéré ou avoir été incarcéré soi-même ou avoir vécu dans un lieu d'enfermement. Voilà, quand t'es prisonnier ou prisonnière, on t'impose une personne. Et avec qui tu dois vivre, que tu connais pas, et devant qui tu dois chier, pisser. Et effectivement, ça peut créer des gros blocages. Et moi, quand j'étais incarcérée à Fleury à l'époque, j'ai eu ce problème en vrai. J'ai eu ce problème avec les selles, où pendant des semaines, deux semaines facile, je pouvais pas. Je pouvais pas faire mes selles. Et en discutant avec d'autres filles, elles étaient dans ce même cas. Voilà, c'est déjà, il y a déjà, d'une part, parce que tu as le choc carcéral, déjà, d'une part, tu arrives en tôle, ça te crée forcément un blocage. Et plus ce truc en plus qui fait que tu es avec une nana ou un mec que tu connais pas et que tu dois chier, et puis il y a plein de trucs qui te passent par la tête en vrai, tu vois, ça va puer, tu vois, le petit caca du matin, c'est con, mais elle se réveille, ça lui taquine les narines au réveil, j'ai envie de te dire, t'es mal à l'aise en vrai, tu vois.
Et puis c'est aussi un truc de tension en fait, parce que ouais. T'as pas envie de te faire réveiller par cette odeur non plus et tout ça.
Ouais, quoi. Puis tu connais t'as pas envie, mais t'as pas envie de réveiller l'autre aussi non plus.
Bien sûr, mais ça
coince.
Même à l'extérieur, c'est un sujet tabou. Moi, par exemple, je vais pas faire caca si quand je suis en pestoche que j'ai trop dans la tête à la limite parce que je me souviens de rien. Mais sinon, tu vois, je vais pas desséquer. Devant toi, si je viens. Tu vois ce que je veux dire ?
Exactement.
C'est quand même un truc qui est très tabou.
Quand tôt, on te l'impose et t'as pas le choix.
Ouais.
Et donc,
ouais.
Effectivement.
Et c'est une torture.
Effectivement, ça peut créer des problèmes.
C'est à quel point finalement la tôle. Déjà, la tôle est anxiogène. Ça veut dire que même pour des gens qui ont déjà été incarcérés. Souvent, les témoignages, c'est ça, c'est quand on en parle avec des gens qui ont vécu la prison, ils le disent. Ils disent, bon, j'ai beau connaître, de toute façon, j'ai quand même perdu des cheveux, j'ai eu des plaques de boutons, j'ai eu des symptômes, voilà, peu importe, qui se cumulent avec cette perte de dignité et de pudeur qu'on t'impose.
Absolument.
Et le cumul de tout ça, ça peut créer des ravages au niveau de la santé, ça c'est sûr.
Bah absolument, puis quand tu sors, du coup, bah, ta dignité, finalement, tu la reprends pas tant que ça. Parce que le père de mon fils m'a donné une anecdote que je connaissais pas, c'est qu'il y avait un match de foot quand il était au Vomètre, et il est resté assis, parce qu'il se mettait même plus debout pour uriner, il est resté assis exactement 2 heures sur les WC devant un match de foot, il n'a pas réussi à uriner. Et les autres détenus, bah, comme il était jeune, ou ils s'en foutent, ou ils se foutent de sa gueule, ou ils l'ignorent, pour avoir un rendez-vous avec un médecin, c'est terrible.
Surtout au Beaumet, c'est blindé de, y a, enfin c'est une grande tôle, donc forcément il faut écrire. Alors c'est pareil, il faut remplir un bon médical. C'est-à-dire que tu demandes au surveillant un bon médical que tu dois remplir, ou dedans t'explique ta pathologie, et ce bon médical tu le redonnes à ce même surveillant qui lui lit ta pathologie. Tu comprends ce que je veux dire? Et qui dit.
Donc le secret médical. Laisse tomber.
Là complètement, il y a plus de secret médical en tout, il y en a pas.
Comme je te disais avant, hein, quand on s'est au téléphone, moi, j'étais que 2 jours de détention. Bon, c'est un sketch, hein, parce que j'ai volé 2 bières à 14 juillet avec mon conjoint actuel. On se connaît depuis des années. Sauf que lui, il avait déjà un bon passé carcéral. Donc, je me tape 48 heures de garde à vue. Je dis que j'étais pas avec lui. Finalement, il vient se rendre. Il me fout en préventive. Alors, pour moi, c'était vraiment le choc. Hein. J'étais une gamine. Moi, j'avais 18 ans. Mmh. Ah ouais. Et voilà, de me retrouver... Alors, j'ai de la chance parce que voilà, ici, c'est Metz. Moi, j'habite à Metz. Je crois qu'il y a 18 places en quartier féminin. Et je me suis retrouvée dans une cellule de 6 avec une amie que je connaissais et une autre un peu plus âgée qui m'a...
Qui t'a pris sous ton aile. Sous son aile, pardon. Enfin.
Ouais, ah ouais, ouais. Parce que pour moi, c'est que 2 jours. Hein. Alors, c'est sûrement rien par rapport à...
C'est rien, mais quand tu sors de garde à vue... Et que tu arrives en tôle et que tu tombes avec des nanas qui savent t'accueillir, ou des mecs qui savent t'accueillir, ça soulage de pouvoir parler à quelqu'un qui te comprend.
Je suis très reconnaissante. Je suis très reconnaissante. Et puis, en plus, voilà, c'était complètement débile. À l'âge que j'ai maintenant, je ne me serais pas laissé faire de la même manière. Ma mère encore s'excuse. Elle me dit, mais comment on a pu te laisser... partir comme ça
pour des bières, non, mais franchement.
Alors mon mec lui a mis un coup de savate au gars de la station, 0 ITT. Donc moi j'ai pris 2 ans de sursis mis à l'épreuve à l'extérieur, mais 3 semaines, bref, j'étais emmerdée pendant 2 ans. J'ai un diplôme, enfin, qu'on a voulu m'enlever. Et je suis tombée sur un jade formidable. Ça me fait presque mal à la gorge de le dire.
Ouais, grave. J'allais te le dire. Attends, bouge pas, je vais vomir, je reviens.
T'as pas vu la tête de Sylvia au moment où t'as dit ça.
Hein. Ouais. Quand je suis arrivée chez le JAP, en fait, il m'avait enlevé mon permis de visite pour mon compagnon. Et donc, je suis arrivée comme une furie. J'étais défoncée. J'ai pété un câble dans son bureau. Il y a une escorte qui est arrivée. Et là, le mec, il a dit, bah, il s'est assez excité, celle-là. Et du coup, il m'a désarçonné. Et il m'a dit, maintenant, vous êtes calmé, vous asseyez. Il a dit, vous avez un diplôme de travail social. Enfin, j'en avais déjà un, et après j'en ai repassé un. Et j'ai dit oui. Et il me dit, bah écoutez, on est sur le point de vous l'enlever, mais moi j'estime que on va vous le laisser. Mais encore faut-il. Franchement, je pense que c'est le seul magistrat sur qui je sois tombé. Je lui dois beaucoup. Franchement. Mais après, c'est plus jamais arrivé, quoi. Parce que mon mec, du coup, pour les 2 bières. Et 0 ITT, il a pris 2 ans ferme.
Énorme. C'est énorme.
Voilà, donc moi j'avais 18 ans, il en avait 22.
Comment briser... T'es tombé sur un... T'es tombé sur quelqu'un de réfléchi ce jour-là, mais il y a des centaines de gamins et de gens qui ont été brisés par ces procureurs, par ces magistrats, par ces... ces juges, par ces présidents, par ces flics, surtout que les flics de Metz.
Alors Metz Thionville, je pense que notre. Enfin,
on en a quand même entendu parler. Hein.
Ouais.
J'en ai entendu beaucoup parler. Surtout une.
Mais 31, je t'en prie.
Surtout deux flics accoutumés du fait sur les violences commises sur des gens.
Des backeurs.
Ouais. Gros soutien à Farid qui est incarcéré aujourd'hui à cause d'eux. Voilà.
D'accord. Un gros soutien.
Je t'expliquerai.
Moi, ils m'ont sorti une dent quand j'avais 18 ans. Ils étaient à 4 sur moi. 4 baqueux sur une meuf de 18 ans. Ils m'ont sorti une molaire. Là, mon père était fin vénère. On a porté plainte chez les gendarmes. Et bah, c'est moi qui me suis retrouvée accusée. Donc, j'ai dû. J'étais apparemment trop violente. dont ils ont dû me massacrer, comme ils faisaient à chaque fois. Et c'est moi qui ai été condamnée.
Excuse classique face à la violence des keufs.
Voilà. Donc, on a le droit de dire le nom des procureurs qui sont des gros salopards ou on n'a pas le droit?
Tu fais comme fais comme tu veux. De toute façon, au point où on en est.
On est plus à une plante près, donc tu sais, on est.
On est plus à ça près.
Je le dis en mon nom. Je vais même dire mon nom.
Voilà. Non, dis pas
ton blaze à toi. Ton blaze à toi, laisse tomber.
Ce monsieur-là, en fait. Non, tu sais quoi, je vais pas le dire parce que je
pas. Mais qu'est-ce qui t'a fait?
Qu'est-ce qu'il nous a fait? On était une bande de jeunes entre Thionville et Metz.
Ouais.
Et donc, effectivement, la police et notamment les maqueux étaient fort racistes. Donc, chaque fois qu'on se faisait, tu sais, genre, tu bois une bière dans un parc, on ne fait rien. Enfin, tu vois, il n'y a rien de criminel ou de délictueux, à part boire une bière.
Ouais, comme tout le monde fait et comme tout le monde a fait, en tout cas, ça c'est sûr.
Leur truc, c'était d'attaquer les copains d'origine. Enfin, moi, je suis pas d'origine française, j'ai envie de te dire, parce que ça se voit pas sur moi. Jusqu'à ce qu'il y en a un qui craque. Et là, du coup, tu te retrouves dans une assez outrage, rébellion, tout le monde se fait tabasser. Et on se retrouve tous en gardave. Il y avait trois gardaves à l'époque dans le vieux comico de Thionville. Donc, il y en avait deux avec une vitre, et l'autre avait une porte blindée avec un chiotte. Et donc, comme j'étais toujours la seule fille, donc moi, j'étais dans une gardave toute pourrie, et les autres, ils étaient à deux dans une autre. Je rigole, parce que je vois mieux en rire. Et on se faisait massacrer. Donc, moi, j'ai une molaire, ils m'ont sauté une molaire, j'ai une arcade, un menton. Et je m'en veux à l'époque de ne pas avoir eu cette connaissance que j'ai eu aujourd'hui. Et ma mère s'en veut encore maintenant. Elle me dit, enfin, je lui dis, de toute façon, vouloir. Hein. Mais effectivement, il y avait cette... Il nous poussait à l'outrage.
Ouais, c'est ça, mais ça, c'est des techniques classiques parce qu'il y a plein d'avantages. Ça veut dire on humilie les gens, donc c'est rester à votre place parce que c'est nous ici, on décide.
C'est nous qui commandons, c'est nous les boss.
Voilà. Voilà. Il y a le fait que c'est tout de suite une affaire élucidée, classée et qui rentre dans les chiffres, donc exactement, qui fait gonfler les quotas et qui fait rentrer aussi les primes. Et plus, puis, derrière, ils peuvent réclamer des thunes.
Puis là, il y a le petit billet du mois.
Voilà, c'est tout bénef.
Les petites vacances payées gratuites aux frais de la princesse.
Voilà. Mais c'est le même fonctionnement à quelque chose près à l'intérieur. Hein,
C'est du même acabit dedans. Ouais.
C'est ça.
Et c'est ce que je disais à la pote tout à l'heure au téléphone. Quand j'ai eu mon premier CDI, premier salaire, compte bloqué. Bon, c'est l'histoire de ma vie en même temps. J'ai payé 6 000 euros. J'ai payé, ils m'ont prélevé, parce que je ne voulais jamais payer, 6 000 euros d'outrage et rébellion.
Énorme.
Alors que les derniers faits datent de 2004.
Ça veut dire que tu es marqué au fer rouge et que même si t'es stabilisé et que tu t'es dit tiens, je vais quand même faire un taf et tout, que tu veux vivre et manger surtout, et ben on t'enlève le pain de la bouche et on te rappelle ton passé de jeunesse en gros.
C'est un truc dont en vrai on... Pardon, vas-y.
Je sais les gérer maintenant. Parce que figure-toi que
maintenant... Ah bah oui, maintenant tu les connais mieux qu'eux.
Oui, je suis à Metz, hein, et il y a des mecs, enfin les maqueux, ça pourrait être mes gosses, ils m'appellent par mon nom, je les connais ni d'Ève ni d'Adam, mais maintenant je sais résister à l'outrage.
Ouais, parce que t'as la maîtrise, puis même c'est leur donner gain de cause quand tu craques, tu captes.
Donc ouais, forcément, puis en plus, tu peux leur parler avec des mots qu'ils comprennent pas. Hein,
ouais, quand, grave.
Quand on parle un langage châtié... C'est peut-être un peu c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est une vérité. Et je me dis, mais d'où est-ce qu'ils... Enfin, comment ils peuvent me reconnaître alors que, voilà, je l'ai dit, c'est... Ouais, t'es cata pendant toute ta vie. Alors, le père du gosse et moi, nous, on s'en fout, hein, on a presque... Enfin, on a l'habitude. Mon conjoint aussi, mais on a un enfant.
Ouais, c'est là où c'est plus compliqué.
Et puis, on connaît leur petit jeu, on sait dans quel piège ils veulent nous emmener, et du coup, on arrive à s'adapter plus facilement, parce qu'en plus avec l'âge on est plus calme, on est plus réfléchi, plus mesuré.
Ça dépend qui.
Ouais, ça c'est pas
non mais puis non, mais
ça dépend qui, parce que ouais, je crois que c'est pas ça, c'est pareil,
mais c'est vrai que c'est un truc qui est il te pousse de ouf à la faute, mais en fait parce qu'il t'humilie à fond, et puis après derrière toi tu vas juste faire je sais pas, un centième de ce qu'ils ont fait. Et là, eux, en fait, ils sont là. Ah bah super, c'est bon. J'ai la qualification d'outrage et rébellion que je peux mettre, Et donc là, je t'embarque et voilà quoi. Alors qu'en réalité, ce qu'ils ont fait, c'est du harcèlement.
C'est ouais. ça. C'est la notion de harcèlement qui est hyper importante. Parce que c'est de la répétition qui fait craquer en fait. Tu peux tenir une fois, deux fois, mais quand c'est 10 fois, 20 fois, 30 fois, il y a un moment tu craques. C'est ça.
Effectivement. Et puis comme je te dis maintenant, j'en ai pris mon parti. C'est malheureux, mais on en prend, on s'habitue. Une anecdote un peu rigolote, je passe en vélo, donc j'ai le droit, le feu est vert et tout. Il y a un fourgon qui manque de me reverser, banalisé. Je fais un fuck et je me tarasse. J'avance, et là, le fourgon se met devant moi. Je freine. C'était deux nouveaux baqueux avec un nouveau véhicule. Il baisse la vitre et il m'appelle par mon nom de famille. J'hallucine total. Et ils disent alors, outrage ou pas outrage ? Bon, j'ai outrage. Ils descendent, contrôle du vélo. Alors, celle-là, on n'avait jamais fait. Les freins, la lumière. Ils m'appelaient par mon nom de famille. Ce qui est quand même, vu la blague, assez sorti du commun. Et finalement, mon vélo était en règle. Grand bien m'en fasse. Parce que sinon, je me serais fait embarquer.
Grave. Ah oui, t'aurais,
ouais, oui, t'aurais foutu une amende de merde et tout. J'ai le même truc avec une bagnole banalisée où je l'ai tapé dans le rétro et puis après, derrière,
T'as tapé dans le rétro, c'était les flics. Ouais. Mon Dieu, qu'il est con.
Non, mais c'est rigolo, quoi. Enfin, on en rigole.
Avec... Ouais, ouais, bah, après, ils ont fait après, derrière, ils ont fait les cow-boys, quoi. Moi, tu sais, je suis parti vite en me disant j'esquive la caisse, tu vois, mais je savais pas, quoi. Les mecs, ils sont... donc voilà, ils ont fait leur cow-boy et tout ça. Mais j'ai pas eu le droit au contrôle du vélo. Et voilà, et je suis pas sûr que moi il serait passé. Mais...
C'est arrivé il y a 8 mois. Enfin, ouais, non, juste avant le premier confinement. Putain, j'hallucine total, quoi.
Non, mais en fait, moi je pense que ce qui est quand même vachement important dans ce que tu racontes, c'est le fait que tu vois, ils connaissent ton blaze.
C'est ça.
Et donc.
Et qu'il se passe le mot en plus.
Et donc voilà, c'est que ça veut dire qu'en fait, on le sait, hein, que dans les comicos, en fait, ils ont des listes de blazes qui sont des fichiers complètement illégaux. Hein, voilà. Mais de personnes qui connaissent et sur lesquelles ils savent qu'ils doivent être. Ils vont charger ces personnes-là. Et il y a plein de fois ça t'a expliqué dans plein de comparutions immédiates ou autres que c'est juste on le connaît. Voilà. Mais ce qui n'est absolument pas du tout un motif de garde à vue, en fait. Un motif de garde à vue, tu dois pouvoir être soupçonné d'avoir fait un délit. Mais ils s'en foutent, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et c'est un vrai problème et qui fait que, enfin, voilà, le harcèlement est continu et il est dirigé vers certaines personnes qui sont tout à fait, enfin, qu'ils ont identifié comme étant soi-disant, je sais pas quoi,
mais en tout cas. En fait. J'ai un tout petit casier, j'ai jamais commis. J'ai des petits délits. Mon seul vrai truc, c'est d'avoir fait 2 jours de prison pour 2 bières, vol, règlement et violence. J'en rigole encore. Enfin, j'en rigole maintenant, mais sinon, je pense qu'il m'emmerde parce que je suis militante, je suis engagée, mais en même temps, je fais partie d'aucun mouvement.
Donc ils sont perdus en fait, ils savent pas où te mettre toi, tu vois, ils savent pas où te caser, dans quelle catégorie on va la mettre, je sais pas, à la casse-couille c'est bien.
D'extrême gauchiste, alors ça ils peuvent se foutre là où tu penses, t'es toute seule, je vais pas leur faire de l'action directe, l'action directe à plein de niveaux, mais c'est pour mon gamin que
t'as peur.
Ça me fait le plus,
bien sûr.
Ça me fait le plus chier. Voilà, mais en même temps, on va pas baisser la tête, quoi.
Non, c'est tout le truc, mais c'est vrai qu'en fait, tu, vu que toi-même tu vis ce harcèlement-là, en fait, tu sais aussi ce qu'ils imposent à d'autres, et c'est normal en vrai. Enfin, c'est sûr que ce truc de jeunesse aussi. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont pas plus tolérables quand on est plus vieux, mais qu'on arrive à prendre, sur lesquelles on arrive à prendre plus de recul. Toutes les révoltes contre le harcèlement policier sont légitimes, quoi. Et d'ailleurs, ça donne l'occasion d'annoncer le procès qui va y avoir après les émeutes de Beaumont qui commence qui commence le 21 juin aux Assises de Pontoise. Et donc, on invite tout le monde à être très présent. On en parlera la semaine prochaine, à l'avant-veille du procès. Mais donc, il y aura une petite dizaine d'inculpés dans le box et on souhaite plein de force. Ça va être 3 semaines de procès en assises.
Il faut rappeler que c'est après la mort. D'accord.
C'est après la mort d'Adama
Traoré. C'est pas des émeutes, il y a eu des prises de parole suite à la mort de leur ami.
C'est ça.
De leurs proches.
Ouais, et puis peut-être rajouter que de toute façon, les flics, c'est aussi leur rôle de mater. De mater les rebelles, tous ceux qui vont se dire, en fait, soit par choix ou parce qu'ils ne l'ont pas, d'aller chercher des thunes autrement par le salariat et l'exploitation. Et c'est une façon de mater et de faire peur aux autres. Et en tôle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'après, les rebelles, les résistants, on les casse aussi en les humiliant, en les harcelant, en les défonçant, et en leur collant des mitards, d'isolement, etc. Donc finalement, ce fonctionnement-là, intérieur-extérieur, encore une fois, comme on le dit souvent ici, ça fonctionne en miroir.
Je sais que ça dure. Alors, je me permets de prendre la parole.
Vas-y.
Je suis très sociale. Je bosse en foyer avec les sans-abri ou avec les sortants de prison. Et encore, j'ai de la chance, mon maître allait les voir en prison. En plus, ça c'est quand même, je suis tombée sur des gens bien qui me permettent d'avoir des gamins, quoi. Et quand bien même dans mon lieu de travail, il y a une descente de police, il m'affiche devant mes collègues, rien à foutre, il m'affiche devant les gens qui vivent là, j'en ai rien à foutre, mais parce que j'ai appris à faire bonne figure et à rétorquer. Mais même dans ta carrière, moi quand ils arrivent, je ne vais pas les insulter, quoi. Sur mon lieu de travail, même à l'extérieur, je ne le ferai plus. Sauf cas d'extrême urgence, mais voilà, même, je pourrais, ça s'appelle de la diffamation, de la calomnie, et ils essayent finalement de te pourrir la vie jusqu'au bout. Tu peux jamais être, une fois que tu as fait ta peine, alors moi je suis contre cette forme de justice, contre l'enfermement de manière générale, la police, à croire que, il n'y a pas à croire. Ils servent une politique d'État qui a toujours été la même, hein, que ce soit gauche ou droite. C'est essayer de pourrir la vie de certaines personnes. Pour une travailleuse sociale comme moi, ça n'a pas été évident. Hein. Là, par exemple, je suis en arrêt, je cherche du boulot ailleurs, je suis blacklistée, alors que je n'ai jamais rien fait de particulièrement mes proches. Ni jamais ni tué, ni violé personne, ni même blessé.
Non, mais t'as fait pire que ça, t'as remis en cause l'ordre établi t'essaies de changer les choses à ta façon.
T'as fait pire que ça à leurs yeux, hein, pas aux nôtres, bien évidemment.
Ça. Oui, bien sûr.
Les yeux, justement, comme vous, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Même seul, on ne baisse pas les yeux. Et je pense que il serait capable. J'en reviens au père de mon fils, là. J'avais pas de nouvelles pendant 2-3 jours.
T'es direct, tu paniques, il est où? Il est en taule.
Ou mort, ou en taule.
Ouais, c'est ça.
On a déjà fait verser des pas mûrs. Toujours assez. Et en fait, il avait une fiche de recherche. Donc, il était en garde à vue pendant 24 heures parce qu'il n'avait pas payé un jour amende, 60 euros en. Je sais pas, il y a 2-3 ans.
C'est des contraintes. C'est pas ça, contrainte par corps, c'est autre chose encore.
Et donc, il est arrêté en voiture par un simple contrôle. Et du coup, 24 heures de garde à vue, quoi. Pour un jour amende à 60 euros.
Ouais, c'est ça.
Là, Katia, on va être obligé de te laisser, mais pas avant de dire qu'on est très triste parce qu'on devait t'avoir dans les locaux et t'as pas pu venir. Mais en tout cas.
Mais je serai là la prochaine fois.
Avec plaisir. Tu viens quand tu veux et avec qui tu veux. Je sais que tu m'as demandé à plusieurs reprises que si tu pouvais écrire, et effectivement tu peux écrire, j'aimerais beaucoup lire tes écrits à l'antenne et t'es une belle personne, voilà.
Et force à tous tes proches. Force aussi à tous tes proches.
Ouais, grave.
Force à tous ceux qui nous écoutent.
Grave.
Voilà.
Et un grand merci à toi pour de toute façon,
vous,
je t'appelle tout à l'heure.
Je crois que je vous ai à peine laissé la parole.
Non, t'as assuré, vraiment, c'était très bien. Et puis je te rappelle tout à l'heure.
Bonne soirée à toi.
Je t'embrasse, à tout à l'heure. Salut, ciao.
On passe un petit coup de zik.
C'est moi qui le dis, on passe un peu de musique.
Alors un des gamins du quartier a raccompagné ma mère jusqu'à la maison pour lui porter les courses. Vous savez pourquoi ?
Les promesses d'embauche pour esquiver le star. À 14 ans, je maîtrisais les écarts. Avec Dylan, on arrachait de l'or. J'ai grandi avec les plus grands voleurs de Paris. C'est nous à 6h, on t'attache dans ton lit. On s'en fout de qui. Si t'as touché au maquila, on va sortir l'embelli. Si y'a l'embila, ça se vesquit comme des mouillibis. On est dangereux comme Kouluna. La Rona connaît les conséquences. Nous, on va jamais se plaindre si ça se corse. Je rose la tour, on a jeté des coffres. Pour faire des sons, on a sorti les crocs. Dans les embrouilles, il a fallu du cran. Comme un maman devant les sous, je l'écris. Les idées tordues comme la tour de Pise. C'est les chefs d'entreprise que nous on pise. On est des voleurs, viens pas faire le grossiste. On va venir t'attacher chez ton père. Y'a aucun plafond qui nous fait peur. On fait pas la guerre pour le ASU. 300 qu'on vend la coque sur Paris. On a les mêmes calibres que Mohamed Merah. Trop impliqué pour être un fou dans le pura. Babar comme l'équipe à Youssouf Fofana. J'suis pas un fêtard, bénéfice et coffret. J'suis dans la précision, pas dans l'à peu près. C'est toi qu'elle trouve aussi les bateaux se perdent. C'est nous les fils de prolétaires. Est-ce qu'on a hérité? On mange des pâtes tous les jours. Pourtant on est pas rital. On roule à 7 dans un Clio 2. C'est nous la banlieue. C'est nous on caillasse les voitures de bleu. C'est nous la banlieue. Ta pouka va ta voiture, on a mis le feu. C'est nous la banlieue. Le jogging trou et la poche remplie de bleu. C'est nous la banlieue. C'est nous la banlieue. C'est nous la banlieue. Ouais, ouais, c'est nous la banlieue. On roule à 7 dans un Clio 2. C'est nous la banlieue. C'est nous, on caisse des voitures de bleu. C'est nous la banlieue. T'as pour qu'un va ta voiture, on a mes feux. C'est nous la banlieue. J'suis dans le pavillon, fin comme numéro 8 pour tourner le papillon. Y'a Virissure qui me prend en photo, c'est pas grave, j'ai déjà pris le ronron. 3 minutes 45 avant l'arrivée des favos. J'suis serré à temps au volant du Camos. Gros voleur comme Arsène Lupin, présent sur les lieux, que pour le butin. Eh, j'vais que t'écouter mon âge de gauche. On vient d'en bas comme Gok et Maragone. Ils m'ont porté les comme le Dajjal. J'suis militaire, on se bat 43. Et sur leur corse à la Diana Hassan. J'suis dans les ouais, j'suis dans les ouais. Putain, c'est testant comme un qui fait ouais. Mais eux, c'est des salopes. Pour eux, j'en parle qu'un oncier. En punaise de j'ai mis la sécurité. Ça bande d'un coche, j'achète un dans mon corps. Il faudrait bien plus qu'une roquilla. Pour que j'm'arrête, je dois casser des portes. Et c'est pour vivre qu'on a vendu la mort. Et c'est pour vivre qu'elle a vendu son corps. C'est pour mon bien que j'fais du mal. C'est pas pour les meufs si on fait des dalles. J'ai trop la dalle. Devant le PG, j'peux pas lâcher le morceau. Il faut les mac. Eux c'est des grosses poucas comme Giancello. Car il est glissé. Aujourd'hui ils veulent s'associer. Ils ont même pas fait le quart de ce que j'ai fait. J'ai plus de 250 cambriolages à mon actif. T'as fait 2-3 cambriolages. Et tu dis que t'as retourné la vie. C'est nous la banlieue. C'est nous la banlieue. Ouais, ouais, c'est nous la banlieue. On roule à 7 dans un Clio 2. C'est nous la banlieue. C'est nous on caillasse des voitures de bleu. C'est nous la banlieue. Ta voiture, on a mes feux, c'est nous la banlieue. Le truc est trop et la poche est remplie de bleu, c'est nous la banlieue. On roule à 7 dans un Clio 2, c'est nous la banlieue. C'est nous, on caillasse des voitures de bleu, c'est nous la banlieue. T'as pour qu'un va ta voiture, on a mes feux, c'est nous la banlieue.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous appeler, c'est au 01 42 06 75 19 ou au 07 52 40 22 48. Avant de prendre Ramata au téléphone, on va quand même dire le son qu'on écoutait.
C'était Beaumaillé, du coup. Des petits jeunes, la petite jeunesse prolétarienne bien vénère. Et le son, c'était Banlieue. Voilà. Qui crotte de nez à tous les faves du moment, là. Ça fait du bien.
Grave.
Salut Ramata.
Salut.
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 Ça va ?
Bien, et vous ?
Oui.
Écoute, ça va, merci. Pas mal, pas mal. Ça fait plaisir de te avoir au téléphone et à cette antenne, ça faisait quelques temps.
Depuis plaisir partagé, c'est vrai, ça fait un petit bout.
Mais voilà, mais je pense que la dernière fois, c'était aussi il y a un an, toujours pour cette lutte qui continue.
Qui continue, qui ne peut pas s'arrêter.
C'est ça. Est-ce que tu veux nous rappeler un peu ce qu'est peut-être pour les gens qui connaissent pas, parce que enfin vous êtes présent depuis Ça fait plus de 10 ans maintenant que vous battez pour qu'il y ait justice et surtout vérité pour la mine, mais aussi pour tous les autres à côté.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, la mine, il a été tué par des policiers.
C'est ça. La mine, c'était le 17 juin 2007, entre 4h et 4h30 du matin, à Paris, dans le 20e arrondissement. La police est appelée pour tapage nocturne dans un hôtel. Et à leur arrivée, la mine était devant l'hôtel. Et donc, ils l'interpellent sans motif, sans aucune raison. Et ils le plaquent au sol, face contre terre. Et donc, ils s'agenouillent sur lui à plusieurs. Ça commence sur la chaussée entre deux véhicules en stationnement, dans un espace assez réduit, comme vous le savez. C'est-à-dire moins d'un mètre. Et donc, quatre policiers sur le corps de la mine, un qui tient les jambes. Ensuite, il est traîné, monoté sur la nuque, pardon, un bras passé par-dessus l'épaule. Les chevilles sont sanglées avec une ceinture en cuir. Il est traîné, posé, jeté dans le fourgon de police, toujours face contre terre. Et là, plusieurs policiers encore agenouillés sur son dos, dont un sur l'épaule droite, un sur l'épaule gauche, un sur le bassin, un sur les jambes, repliés jusqu'aux fessiers. Et donc, la mine a vomi pendant qu'ils étaient sur lui. Ça a duré 30 minutes, son agonie. Il a respiré son vomi. Et donc, l'autopsie va révéler plus tard qu'il est mort d'une asphyxie mécanique par suffocation due à l'appui facial contre le sol avec pression du sommet de la tête. Il y avait une quarantaine d'hématomes sur le corps de la mine, dont une dizaine sur la tête. Un œdème cérébral, un engagement cérébelleux. Enfin voilà, il avait aucune chance de s'en sortir, quoi. Le traitement qu'il a subi, non seulement le menottage n'était pas réglementaire parce qu'il est dangereux, mais ensuite l'acharnement qu'il y a eu sur lui de plusieurs policiers, des professionnels de la sécurité, sur un homme non armé, pas menaçant, et qui avait commis aucun délit ni crime, quoi. Donc voilà, il a été lâchement assassiné comme ça.
Et ça, c'est le début, après, derrière, d'un long combat pour faire exploser la vérité, quoi.
Tout à fait. Voilà.
Un combat qui va se passer aussi dans les tribunaux.
Absolument. si on peut dire ça.
Ouais, c'est ça, t'as raison.
Parce que c'est la difficulté, justement, c'est d'arriver à obtenir l'ouverture d'un procès. Parce que pour ça, il faut que le crime soit reconnu par un magistrat, par l'institution judiciaire française. Et donc, que ce magistrat qui est en charge de l'instruction décide s'il y a suffisamment d'éléments dans le dossier pour ouvrir un procès ou pas. Et donc, c'est lui qui décide s'il met en examen ou pas les policiers. Et voilà, l'histoire des violences policières en France montre que, en fait, les magistrats n'aiment pas mettre en examen les policiers. Et donc, ils ne le font pas. Et donc, on a un non-lieu, un premier non-lieu au bout de 7 ans d'instruction. Oui. On fait appel. Un deuxième non-lieu, c'est-à-dire le non-lieu est confirmé 2 ans plus tard, c'est-à-dire, que je ne dise pas de bêtises, donc 7 ans plus tard, le non-lieu, effectivement. Oui, c'est ça. Et puis donc, cour d'appel 1 an plus tard et cour de cassation 2 ans plus tard. Voilà, qui confirme aussi le non-lieu. Donc la justice française a décidé que la mine était morte tout seul, que il n'y avait pas eu meurtre, il n'y avait pas eu d'homicide, et circuler, il n'y a rien à voir. Et donc effectivement, le combat a commencé par la recherche de la vérité, parce que les premiers enquêteurs sur place sont les premiers enquêteurs sont les meurtriers eux-mêmes, donc c'est-à-dire les flics. Et donc, ils ont à loisir le temps de maquiller la scène et de monter une histoire de toute pièce. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, la vérité, nous, on a eu la chance de l'avoir parce que un médecin de l'expertise médico-légale, un professeur, a dit la vérité. Il n'a pas été complice. Il n'a pas cherché à protéger la police, comme ça se passe dans la majorité des dossiers, pour ne pas dire tous. Et donc là, la cause de la mort est évidente. La mine n'aurait jamais pu... c'était pas une overdose. parce que la première autopsie qu'ils ont effectuée avant d'avertir la famille que l'ami était mort, disait que il est peut-être mort d'une overdose. Et c'est notre plainte qui a ouvert une nouvelle enquête et qui a permis justement, avec donc une contre-expertise médico-légale, d'obtenir cette vérité qui est que ils l'ont étouffé, tout simplement. Il est mort d'asphyxie. Et donc, le juge ne tient pas compte de cet élément. Il ne tient pas compte non plus des témoignages qu'on a pu trouver. Et donc, il prononce un non-lieu. Et la cour d'appel, évidemment, ne contredit pas le magistrat. Il le soutient, parce que là, c'est une grande famille, comme vous pouvez le savoir. La justice, la police sont main dans la main et ils se protègent mutuellement. Donc, quand il y a violence policière, les magistrats protègent les criminels. C'est récurrent.
Clairement. Et au bout du bout, l'État quand même va.
Au bout du bout, on a un tribunal, effectivement. Mais ce tribunal, c'est la Cour européenne des droits de l'homme.
C'est donc c'est
sortir du pays pour obtenir quelque chose.
Et 10 ans de combat. 10 ans de combat acharné, de lutte aussi, parce que donc là il y a cette lutte sur le terrain judiciaire, mais il y a aussi toute la lutte que vous avez fait à côté. On va y revenir tout à l'heure. Mais donc au bout du bout, mais 10 ans de combat, 13 ans, ouais.
13 ans que la décision de la Cour européenne tombe, et en fait c'est pas vraiment une décision parce qu'elle n'a pas eu à trancher, elle n'a pas eu à juger. Pour une fois, la France ne s'est pas défendue, n'a pas cherché à se défendre et a choisi la procédure non contentieuse nouvelle à la CEDH qui date de fin 2018 et donc qui permet de désengorger les tribunaux de la CEDH parce que il n'y a pas que la France. C'est un règlement amiable qui est proposé aux deux parties, c'est-à-dire que la Cour fixe un montant d'indemnité. Et donc, si l'État accepte de payer, c'est une reconnaissance du crime, c'est un aveu de culpabilité. Et donc, c'est ce qu'on a eu. Ils ont admis, enfin, devant ce tribunal, qu'il y avait bien eu homicide, meurtre, et ensuite, qu'il y avait eu déni de justice, parce qu'il n'y a pas eu de procès.
Et c'est ça qui est affreux, c'est qu'il y a besoin de se battre pendant 13 ans. Voilà, et comme tu le disais tout à l'heure, les agresseurs sont protégés, mais parce qu'on sait qu'ils sont main dans la main. Et tout ça, vous avez réussi à l'obtenir aussi parce que vous avez rapidement monté. Enfin, il y a eu le collectif Vivolé. Est-ce que tu peux aussi un peu nous parler sur tout ce que vous avez fait aussi à côté pour faire vivre cette lutte fédérer plein de familles et tout.
Tout à fait, oui. On a commencé à constituer d'abord le comité vérité justice pour la Lamine Dieng avec les amis, les soutiens militants d'expérience ou pas, toutes les bonnes volontés et les forces vives qu'il y avait autour de nous et qui se proposaient de nous aider. Le comité a été monté et à partir de là, disons que de discussion en discussion, on est arrivé au constat qu'il n'y avait pas de collectif qui réunissait des familles de victimes. Et donc l'idée est venue de monter donc le collectif Vivolé pour regrouper ces familles sous une même bannière, parler d'une seule voix, et se faire entendre du coup et s'entraider également parce que l'idée c'est de briser l'isolement de ces familles, c'était le cas, donner de la visibilité au niveau de la société et effectivement avoir une parole politique plus forte. C'est ce qu'on a fait. On a commencé avec une famille, deux, trois. On a sillonné la France pour retrouver les familles. Et celles qui ont accepté d'intégrer Vivolé, c'était aussi une protection pour elles. Ça leur permettait de parler, de faire entendre leur voix sans pour autant subir la répression. C'est-à-dire que souvent, c'est le conseil en tout cas des avocats à l'époque, je pense aujourd'hui encore, peut-être pas tous, mais... il était de rigueur de ne pas faire trop de bruit justement parce que ça pouvait braquer le magistrat instructeur et que donc il pouvait classer le dossier en non-lieu parce que la famille avait fait trop de bruit dans la rue. Donc voilà.
Alors qu'on sait que c'est un rapport de force.
Là de voilà de.
Alors qu'on sait que c'est un rapport de force, et je pense que c'est aussi ce que vous avez démontré dans cette lutte, c'est que c'est un rapport de force, le tribunal, et qu'en fait, on est écouté seulement s'il y a du soutien à l'extérieur, s'il y a de la visibilité à l'extérieur, et tout ça, quoi.
Sincèrement, j'ai du mal à tenir ce propos.
D'accord, pardon.
À l'époque, en 2007, effectivement, le sujet des violences policières était tabou. C'était, ça n'existait pas. Voilà, il y avait un déni de la société, des politiques, des grands médias, etc. On était très très peu. Et donc, l'objectif premier était de donner de la visibilité. Aujourd'hui, la question ne se pose plus parce que même le président qui disait que ça n'existait plus dit aujourd'hui effectivement que ça existe. Donc, on a énormément progressé à ce niveau-là. Mais on suit la voie judiciaire. Parce qu'il faut le faire, parce que il faut pas renoncer à ses droits. Mais les tribunaux, c'est eux, en fait. C'est-à-dire qu'on a pas, on a très peu de pouvoir dans un tribunal, nous, en tant que victime ou en tant que militant ou en tant que société civile, tout simplement. On a très peu de pouvoir. Les magistrats font ce qu'ils veulent. Et on l'a constaté dans le peu de procès qu'il y a eu, que ça soit l'affaire de Abdelhakim Hajimi à Grasse, qui s'est fait tuer comme la mine, en fait. Hein. Sauf que lui, c'était en plein jour, devant 25 témoins oculaires. Ça a fini sur les peines avec sursis. Mmh. Maximum 18 mois. Et là, pareil, il a fallu se battre des années aussi. Le peu de cas où il y a vraiment une ouverture de procès, on finit sur des peines ridicules, en fait, qui sont pas du tout... c'est contraire à la loi, quoi. C'est-à-dire que la loi, ce que le code pénal prévoit quand il y a homicide, quand il y a meurtre, hors cadre de légitime défense, parce que c'est bien le cas, les peines sont... J'ai même pas de qualificatif, en fait, quoi. C'est ridicule. Donc, que peut-on faire à part, effectivement, suivre le code pénal et faire appel, mais encore une fois, on retombe sur les mêmes ou sur... et c'est eux qui décident, quoi. On n'a aucun pouvoir à ce niveau-là, en fait. La seule chose qui est gagnable aujourd'hui, c'est la vérité, voilà. On peut obtenir la vérité aujourd'hui parce qu'on filme, parce qu'il y a des témoins, parce que, etc., il y a des éléments matériels, incontestables, scientifiques, etc., qui permettent de connaître la vérité. Mais le corps parle, voilà, les cadavres parlent, et donc les expertises sont importantes. Mais là aussi, pareil, nous, comme je vous le disais, on a eu de la chance, mais ce n'est pas le cas, par exemple, dans le dossier de Wissam El Yami. La famille a pu avoir recours à des expertises privées, etc., parce que l'expert mandaté par le magistrat était complice, tout simplement. Donc voilà, on peut obtenir la vérité, mais obtenir une condamnation à la hauteur du crime qui est commis, on en est encore loin aujourd'hui.
Hein. Ah. Oui.
Vraiment.
Ouais, c'est que l'État et sa justice ne permettent pas ces formes de reconnaissance à certains profils. Donc là, les profils, en l'occurrence, c'est des gens qui sont de classe populaire, qui sont majoritairement de classe populaire et racisés, exactement comme ceux qu'on envoie en prison.
Non, puis la comme si tout ça s'était fait pour décourager les proches qui se battent pour avoir cette gain de cause, quoi, tu vois.
Ouais, c'est...
Et quand des fois je vais parler dans ta rappel, on a été parlé dans une cité dans le 94, et on disait aux jeunes, surtout si vous avez des maltraitances de la police, allez porter plainte, parce que ces équipes là ils seront cataloguées et que c'est important, ça peut, et ben eux-mêmes me disaient ouais, mais ça aboutira jamais à rien, et
ils ont déjà conscience de la justice de classe et de la justice raciste, en fait. Ils la connaissent déjà, ils la vivent tous les jours. Et finalement, autant au niveau des violences policières que du traitement
Exactement.
Judiciaire qu'on mène en prison, on est sur les mêmes types de fonctionnement.
Et c'est en se battant qu'il y aura ces gains de cause, il ne faut rien lâcher. Et franchement, ouais. Grand respect à vous. Quoi.
Ouais, c'est un très bel exemple.
C'est clair.
Et vous.
Se battre pour notre dignité, c'est hyper important. Quoi. Mais effectivement, voilà, la justice, on l'a autrement. Ça ne sera pas comme l'idée qu'on en a tous, parce qu'on nous l'a enseigné depuis qu'on est tout petit.
C'est ça.
Quand il y a mort d'homme, eh bien, l'auteur du meurtre va en prison, en fait. Clairement, en France, ce n'est pas le cas quand on porte l'uniforme de la police ou de la gendarmerie. Donc, quelle forme de justice pouvons-nous obtenir autre que l'emprisonnement des auteurs ? Eh bien, celle que nous avons obtenue à la CEDH, pour moi, c'est une victoire. Mmh. Effectivement, c'est une victoire parce qu'on a obligé l'État à reconnaître qu'il a menti, à reconnaître que son système judiciaire a failli, que ce choix désavoue tous les magistrats qui sont passés dans le dossier de la mine. Et Dieu sait combien il y en a eu.
C'est clair. Et ça montre que c'est clairement une justice de classe et qui protège l'État policier. Quoi. Et le combat, il ne s'arrête pas pour autant. Et le 19, vous organisez à la Parole Errante, donc à Montreuil, rue du Berg, samedi, un événement.
Oui. Ça sera les 14 ans, donc on continue la résistance comme on peut avec les moyens dont on dispose. On a constaté aussi qu'il y avait quelques lacunes au niveau des pratiques militantes, que ça soit au quotidien ou dans le cadre de manifestations. Du coup, la commémoration pour les 14 ans qui aura lieu donc samedi 19. À la Parole Errante, à partir de midi jusqu'à à peu près 20h, est centré sur la formation. Voilà, la formation, comment, quand on filme, quel réflexe il faut avoir, quand on est en garde à vue, quel réflexe il faut avoir, quels sont nos droits, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut dire, ne pas dire, qu'est-ce que eux ont le droit de faire aussi ou pas, etc., etc. Donc voilà, on voudrait s'inscrire dans cette ligne de la transmission, la mémoire, et donc mettre en place des outils qui permettent à chacun et à chacune de résister en sécurité, quoi.
Et de connaître ses droits quand on est enfermé dans leurs locaux et qu'on est seul face à cette machine à broyer tel qu'on peut l'être en garde à vue, je parle en connaissance de cause, mais il est important de connaître les lois et enfin surtout les règles et comment qu'on a le droit à un avocat, que c'est super important. Et
Et il y aura aussi, nous on sera présents aussi pour parler aussi un peu des violences pénitentiaires dans tout le réseau Entraide Vérité et Justice aussi qui a été monté ces derniers temps là. Donc c'est important
et aborder aussi la question de la violence psychologique. Mmh. Il y a la violence policière, il y a la violence judiciaire. Et il y a la violence pénitentiaire et il y a aussi la violence psychologique dont on ne parle pas et pour laquelle, pour nous, victimes de violences policières, victimes de crimes d'État, il n'y a rien qui est en place. Et donc là aussi, c'est à nous de mettre en place, d'y réfléchir, de mettre en place une structure qui prenne en charge ces traumas-là parce que c'est pas n'importe quel psy qui peut... Qui peut aider en fait ce type de profil de victime. Et donc on a besoin, on a besoin de pouvoir parler, de dire ce qu'on ressent, de se soigner psychologiquement.
Et donc en tout cas, on rappelle à tout le monde, donc c'est à la Parole Errante, rue François de Berg, c'est le samedi 19 à partir de midi, et donc le métro, 19 juin, pardon, donc c'est dans une semaine, et donc c'est au métro Croix de Chavaux. Ceux qui sont à l'extérieur, c'est important qu'il y ait du monde aussi pour apprendre de toutes ces luttes que vous avez menées et tout. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter, Ramata?
Toujours le même message. Ne laissez personne seul entre les mains de la police. Sortez vos appareils, filmez, diffusez. C'est le seul moyen pour que la société ouvre les yeux sur ces violences policières. C'est le seul moyen pour obliger les politiques à le reconnaître. Et probablement que dans un futur, j'espère pas trop loin, on pourra obtenir l'application de la loi quant à amener un policier devant les assises, tout simplement, et qu'il soit jugé et condamné à la hauteur du crime qu'il a commis. Donc voilà. Inch'Allah, comme on dit chez moi, bientôt un tribunal aux assises et donc dans le box des accusés, la police.
Ouais, et puis vous êtes le collectif un peu pionnier qui avait fait ce rapprochement violence policière, violence pénitentiaire. On rappelle aussi que quand il y a des morts en prison, les témoignages sont très précieux et qu'il faut parler.
Absolument, absolument.
Merci beaucoup à vous.
Partout, c'est pareil. Personne n'est à l'abri aujourd'hui, je crois que c'est clair. Ne laissez personne seul.
C'est ça. Merci beaucoup, Ramata.
Merci à toi.
Et dans une semaine, enfin, pas perso parce que moi je serai ailleurs, mais en tout cas il y a des gens autour de ce micro qui seront présents.
Qui seront présents parce que on veut absolument soutenir. Cette cause et aussi vous remercier parce que de faire le lien entre les violences et les meurtres policiers et les violences et les meurtres pénitentiaires, c'est super et c'est un combat qu'on veut vraiment mener à vos côtés, quoi. Voilà.
Merci. Nous aussi, ça nous tenait vraiment à cœur parce que encore une fois, c'est tellement évident que pour moi, ça devait se faire, quoi. C'est-à-dire que nous avons un même ennemi. Notre bourreau est le même.
C'est ça.
Et donc, il faut qu'on s'unisse.
Un grand merci à toi et un grand merci à tout le collectif.
Grave. Force à vous, à très très vite. Ouais. Merci pour tout. Et vous filez quand même vraiment de l'énergie et ça fait quand même. Vraiment du bien de voir qu'il y a encore toujours autant de force après si longtemps et on peut que être plein d'admiration face à ça. À très vite et Simer, merci encore.
Salut.
Merci, salut.
À bientôt. On passe.
Non, c'est moi qui le dis, on va mettre un peu de musique. Mais il est fou lui. Non mais dis donc.
Hier, Sevran, Denel Toro 3 tours, CV, SBR, du 9-1 au 9-3, côté Mexico. Fais ce qu'il a mort ou la prison, hey, hey.
Faut vu ce qu'il a mort ou la prison, hey, hey.
Allô?
La D.
Mais allô? À l'année prochaine,
c'est la SP, hey. C'est la SP,
hey. Tu mets distance.
On s'était dit à l'année prochaine, sans savoir qui sera le prochain. On a vu la mort s'approcher. J'ai perdu du temps, la daronne me l'a reproché. Règlement de compte pour des hasba, poteaux d'enfance. La cité nous bousille sur la route de l'appel. Les refrains n'ont pas mis d'essence. Donc il faut un demi, dommage collatéraux. Hommage au refrain parti. Une daronne en repleu, une daronne à rifle au parloir. Et les conséquences pire que la raison. Déballer des corps sur le sol, encore un humain au ciel. Ça m'arrive de pleurer aussi. J'ai que ces gros bâtards ont le seum gris sur la taille. Je vais réussir.
et le temps passe, qu'est-ce que tu deviens? J'ai quitté le rat et ça me rendait fou. Territoire et bâtiment on défend, avec la mort on a tous rendez-vous. Un frérot qui béton, un autre qui sort. La prison c'est la guerre, y'en a qui sert. À la cité que des histoires bizarres, à la base on voulait que baiser.
Et moi c'est mal, maman, est-ce que c'est normal? Non, me coupe pas, je suis dans le noir. Souvent j'endors mal, quand je vois tout ça j'ai mal, maman. Est-ce que c'est normal? Non, me coupe pas, je suis dans le noir. Souvent j'endors mal.
J'ai grandi, j'ai pris mes distances.
Est-ce qu'il y a la mort ou la prison?
J'ai plus grave, j'ai pas eu trop de chance.
Mais la daronne avait raison.
On se rafale, on part en vacances.
Est-ce qu'il y a la mort ou la prison?
Prison.
Est-ce qu'il y a la mort ou la prison?
Prison.
Je veux est-ce qu'il y a la mort ou la prison?
J'ai grandi, j'ai pris mes distances.
Est-ce qu'il y a la mort ou la prison?
J'ai plus grave, j'ai pas eu trop de chance.
Mais la daronne avait raison.
Grosse Rolex et je suis en avant.
Est-ce qu'il y a la mort ou la prison?
Prison.
Est-ce qu'il y a la mort ou la prison?
Prison.
Je veux est-ce qu'il y a la mort ou la prison?
J'ai vu les épisodes. Du poison dans le bisap, les frérots sont bizarres. Dehors c'est la guerre encore, tu pourras dire qu'on a la guine. Des balles pour écourter la vie, la plante a fleuri sur la tombe de l'homme qui était fier. Il veut gâcher sa vie, il se dit qu'il a plus rien à perdre. Une daronne en pleurs au parloir, une daronne en pleurs à la porte. Ça fait trop mal si c'est la même, j'ai perdu du temps à fleuri. Et sale peur, je serais déjà mort, genre de ce franc je suis déféré. Boba je le dépôt, change pas ta dépôt, j'ai vécu des galères, j'en oublie mon départ. Ico du ghetto, j'ai vendu du bédo, volé des motos, braqué au métal.
Des fois j'ai peur de rire, un mal ça cache un bien. J'ai grandi pauvre, si tu me donnes un faut que je te rende trois. On était petits, on dormait collés dans l'étage. On a grandi, on a tous fini en cage.
Hey, faut que je m'évade au télo avant de leur faire quelque chose. La vie c'est les pénaux, si tu loupes tes peines. J'oublie pas les longues peines, la ville peinte à ville fleur. C'est que des trompettes, les paroles ils font pas.
J'ai grandi, j'ai pris mes distances.
J'ai plus grave, j'ai pas eu trop de chance.
Est-ce qu'il y a la mort ou la prison?
J'ai grandi, j'ai pris mes distances.
Est-ce qu'il y a la mort ou la prison?
J'ai plus grave, j'ai pas eu trop de chance.
La daronne avait raison.
Grosse Rolex et je suis en avant.
Est-ce qu'il y a la mort ou la prison?
Est-ce qu'il y a la mort ou la prison?
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris, pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Et pour nous appeler, c'est au 01 42 06 75 19 pour le direct ou le portable 24h sur 24, 7 jours sur 7 au 07 52 40 22 48. C'est bien dommage que nous n'avons pas la caméra à la radio parce que au début de la musique, Jay nous a fait un petit pas de danse. J'ai envie de dire, j'ai été magnifique.
Que tu voulais balancer.
Il était magnifique. Oh, c'est un régal. Merci.
Oh là là, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Autant de poucaveries.
C'est un régal.
Donc voilà, moi je soutiens Jay que pour ses poucaveries vraiment.
Mais tu cautionnes merci, puisque merci. J'ai dit que j'allais le balancer.
Mais non,
que,
mais j'avais pas compris que tu voulais que, le balancer
ah bah oui.
En direct.
Ah bah attends, c'est pas drôle sinon. Je balance à qui sinon?
J'ai bien compris.
Et pour une fois que je balance, on va, mais c'est tranquille quand même.
De quelques petites brèves.
Je balance pas, je renseigne.
Très rapide. Voilà. Dans ce climat quand même vraiment dégueulasse qu'on vit en ce moment, la création de la police municipale à Paris. Donc voilà, toujours plus de keufs qui vont être présents dans nos rues. Ces keufs qui font du contrôle au faciès, qu'on le sait. Enfin, il n'y a pas besoin, voilà. Mais des fois, il y a des décisions de justice qui vont dans le bon sens. Près de 5 ans après, en 2017, c'était des jeunes lycéens qui étaient sortis après, pendant une sortie scolaire. Les trois seuls racisés avaient été... contrôlé par la police, voilà, en première instance, donc le tribunal avait dit non, c'est pas du tout un contrôle au faciès, du tout. Ils viennent de gagner en appel.
Racisé, c'est que c'était les trois seuls qui étaient pas blancs.
Ouais, c'est ça. Oui.
C'est juste ça.
Et c'est
tout.
Et un gros soutien à la personne qui en début du mois vient de prendre un an de prison. Il s'était évadé à la fin du mois d'avril parce que la tôle était complètement pourrie à coups de petite cuillère. Il avait pu réussir à déceler un baron et il est allé rejoindre sa compagne comme il a tout à fait raison de le faire. Et ils ont osé lui foutre un an de tôle alors que c'est juste leur putain de de tôles qui tombent en ruine et c'est que c'est pas leur problème, enfin c'est pas notre problème en tout cas.
Et que c'est le droit le plus essentiel, c'est
clairement
de s'évader.
Et rappelons qu'il y a encore.
Je vous dis que la prison c'est l'école de la patience, voilà. Il a été très patient le gars avec la cuillère, hein, je vous le dis.
Mais après, il y a aussi plein de tôles qui sont vraiment pourries.
Ah oui,
pourries.
J'étais délabré, c'est clair, pour y arriver.
Et donc il y avait quelqu'un, je sais plus où, il y a un an ou deux qui s'était aussi évadé simplement parce que les barreaux ils s'effritaient quoi. Voilà. Et un autre point, on en a parlé à longueur.
On va plus pouvoir voler dans les magasins.
C'était pas ça que je voulais raconter.
Si, c'est ça qu'il faut dire.
Mais ils sont en train de il y a deux trois entreprises c'est un billet des gens de merde, j'ai oublié leur nom, qui font grave de taf sur je vous retrouverai le nom tout à l'heure, mais la quadrature du net, qui il y a un logiciel qui a été créé de reconnaissance corporelle et visuelle, enfin voilà, qui permet dans pas mal de magasins à repérer si t'es en train de voler quoi, voilà, donc c'est de la reconnaissance intelligente, voilà, et donc ça remarque si t'as eu une augmentation de ta température, de ton pouls parce que tu stresses un peu et tout ça, donc surtout respirez bien. Voilà, faites un peu de yoga avant d'aller au supermarché.
Prendre un Valium avant d'aller
ça, tranquille. Voilà, évitez de mettre les trucs dans vos poches parce qu'il paraît que c'est ça qui repère aussi. Donc, mettez dans un sac, et qui.
Faut voler sincèrement.
Mais voilà,
maintenant,
c'est ça.
Tu vois,
allez-y de plus en plus tranquille. Voilà, parce qu'en tout cas, c'est ça qui était décrit comme étant repéré.
Et pour bien faire les choses, allez voir les articles sur le site de la Quadrature du Net.
Ouais.
Ils font un travail exceptionnel et du coup, vous aurez un max d'infos pour essayer de déjouer cette merde.
Et d'ailleurs, ils ont écrit un article assez important sur le comment. Et d'ailleurs, ça a été aussi la CNIL qui en a parlé sur la vaccination, enfin sur le pass sanitaire, qui est vraiment un scandale. Voilà. On rappelle que il faut que les gens aient l'accès à l'intérieur des tôles à la vaccination s'ils souhaitent se faire vacciner, et que les parloirs doivent repasser à la normale. On passe au coucou très rapidement. Serge, je sais pas si tu m'entends, j'ai vu tous tes appels, t'as à chaque fois, je suis désolé, appelé au mauvais moment, mais plein de force à toi, je sais que c'est dur, et voilà.
Ouais, on va faire les dédicaces de K, qui salue chaleureusement Kémy, Nani, Bilal, Eruno, Sam, et ceux qui se reconnaîtront à Fresnes, Boisdard, Villepinte, Muret, Fleury, les autres. De la force pour tous les potes, les familles et les visiteurs, devrais-je dire visiteuses, n'est-ce pas ? Merci l'équipe pour tout le taf que vous abattez. Et on n'oublie pas les accusés des révoltes de Beaumont-sur-Oise, en préventif depuis 4 piges pour au moins un. Depuis les émeutes qui ont suivi la mort d'Adama Traoré à Beaumont, ça commence le 21 juin, on l'a déjà dit. Et aussi, gros big up à l'infâme, force et honneur dans l'adversité, la famille, courage, détermination et beaucoup de force à vous.
Un coucou à Fabrice aussi.
On chante une chanson ?
Ouais.
Non, vas-y, toi, t'as des coucous.
Moi, je fais à courage tous les prisonniers d'ailleurs et de France et du monde entier.
Les proches, beaucoup de force aux proches.
Rediffusion mercredi matin à 8h30.
La semaine prochaine, c'est une émission qui sera enregistrée. Voilà, on parlera de la construction des nouvelles tôles et aussi des révoltes de bon.
Force, courage et détermination. À la semaine prochaine. Et bien évidemment, il n'y a pas d'arrangement.
Avec Fizzy, yeah. Fais l'argent easy. Adam boîte à gants, en outils sans permis. Sa pop, sa neuf, sa caffeine démontée, les selfies. Ou chaud d'après, fais au pourri. Con Usain Bolt, dépassé Usain Bolt. Con Usain Bolt, dépassé Usain Bolt. Fais au pourri. La baba gel ou con l'ami. Un sous-jacques chez mes femmes qui est solide. Des gros modèles. Y'a que des gros modèles.
sa job, body, maki. Ok, femme ou pas, moi, c'est un hobby. C'est au cas, vin, bien, t'y chien. C'est toujours moi, les mains. Mais biche, moi, vous savez ça bien. Money des potes, colombiens ou mélogènes. Dans les pieds, moi, tiens. La même pour action. Ou chaud d'après, oh. Fais, oh, pourri. Con Usain Bolt. Dépasser Usain Bolt. Con Usain Bolt. Dépasser Usain Bolt. Fais, oh, pourri. Pour la garbage, elle ou Colombie. Elle se jacque chez mes femmes qui est solide. Des gros modèles. Et qui des gros modèles. Des gros modèles. Et qui des gros modèles. Des gros modèles. Et qui des gros modèles.